franceinter.fr.
Pili Trianguli et Kana Likuli, qui est aussi appelé le syndrome des cheveux incoiffables, aujourd'hui à la une de la science, une maladie génétique décrite pour la première fois en 1973 et qui est intrigante et dont vous venez de percer les mystères, Michel Simon. Bonjour à vous.
Oui, bonjour Mathieu Vidard.
Vous êtes directeur de recherche dans l'unité INSERM Différenciation épidermique et auto-immunité rhumatoïde, c'est à Toulouse, et donc vous publiez avec des collaborateurs du monde entier la première explication génétique et biologique de ce trouble des cheveux incoiffables. Alors, comme beaucoup de nos auditeurs, je ne connaissais pas du tout cette maladie avant ce matin. Qu'est-ce qui caractérise d'abord un cheveu incoiffable ?
Alors, c'est un cheveu qui se dresse sur le cuir chevelu, qui pousse dans tous les sens. Et comme son nom l'indique, on ne peut pas le coiffer et on ne peut pas l'aplatir avec lui donner la forme que l'on a envie de lui donner avec un peigne. Alors, l'une des autres caractéristiques de ce cheveu, c'est sa couleur. C'est une couleur un peu blonde, platinée, avec une brillance très particulière qu'on ne retrouve pas dans d'autres types de cheveux. Et la troisième caractéristique, c'est sa forme. Si on le regarde sous un microscope, qu'on l'agrandit 200, 300 fois, on va se rendre compte qu'au lieu d'avoir un cheveu qui normalement est cylindrique, régulier, on va avoir un cheveu qui présente comme une gouttière tout le long du cheveu. Et si on le coupe, au lieu de voir un cercle, on va voir quelque chose qui ressemble plus à un cœur.
D'où ce nom, hein, Pili Trianguli et Kana Likuli, hein, Axel.
Est-ce que c'est dangereux d'être atteint de ce syndrome du cheveu incoiffable ?
Non, dangereux sûrement pas, puisque ça touche essentiellement le cheveu. Alors quelques cas ont été rapportés où le syndrome était associé à des modifications beaucoup plus importantes, des troubles plus importants, comme par exemple des cataractes juvéniles ou des défauts de pigmentation de la rétine. Mais c'est des cas vraiment très très rares. Dans la plupart des cas qui ont été rapportés, c'est uniquement le cheveu qui est modifié. Donc évidemment, ça n'est pas grave. Et encore moins grave, d'autant plus que le syndrome va progressivement disparaître avec l'âge et qu'en général, on le voit très bien chez les enfants, alors que les adultes, on ne verra plus finalement de problèmes sur leur chevelure.
Beaucoup d'enfants sont concernés ?
Alors actuellement, on connaît une centaine de familles ou d'enfants qui sont atteints de ce syndrome, mais probablement que la fréquence est beaucoup plus importante. D'une part, parce que si vous ne pouvez pas coiffer vos enfants le matin, vous n'allez pas forcément aller voir votre médecin, encore moins votre dermatologue.
C'est vrai.
Donc, du coup, on n'a pas fait le diagnostic. Mais nous avons aussi, puisque maintenant nous connaissons, nous avons identifié les causes génétiques de cette maladie. Si nous recherchons dans une population normale, on connaît maintenant plus de 50 ou 60 000 génomes d'individus normaux, d'hommes ou de femmes normaux dans le monde qui ont été séquencés, on retrouve à peu près ces mutations de l'ordre de 1 pour 10 000 personnes. Donc on peut penser que la fréquence de la maladie est de cet ordre-là.
Alors, venons-en à votre découverte. Qu'est-ce qui fait que ce cheveu pousse de cette manière et avec cette forme, alors ?
Alors, les mutations que nous avons identifiées vont modifier soit l'activité, soit la présence même de trois protéines qui sont probablement importantes pour la structure elle-même, la structure intime du cheveu, donc du follicule pileux. C'est tout d'abord la tricoyaline, qui est une protéine qui est importante parce qu'elle va organiser les filaments de kératine, donc la protéine, les protéines majoritaires du cheveu. Elle va organiser ces protéines dans la tige pilaire. Les deux autres enzymes modifient cette protéine et lui permettent de remplir ses fonctions. Donc c'est probablement ce défaut de ce pathway biochimique qui va induire des défauts de structure du cheveu.
Est-ce que cette découverte de la structure et de l'action de la tricoyamine, comme vous le dites, peut avoir d'autres applications en dehors du domaine capillaire ?
Alors, on peut penser que oui, parce que en fait, ces protéines, nous nous y intéressons depuis de nombreuses années, pas du tout pour leur rôle dans le cheveu, ou pas essentiellement pour leur rôle dans les cheveux, mais surtout pour leur rôle dans l'épiderme. Puisque ces protéines sont aussi exprimées, les deux enzymes dont nous parlons, ou non, pas tout à fait la tricoyaline, mais une protéine qui lui ressemble beaucoup, qui s'appelle la filagrine, donc c'est une petite cousine finalement. Et ces protéines jouent un rôle important dans l'épiderme et dans la fonction de barrière que joue cet épiderme, puisque comme vous le savez, l'épiderme est à l'interface entre l'organisme et l'environnement extérieur, et empêche la pénétration dans l'organisme de micro-organismes. de molécules chimiques qui pourraient être délétères pour la peau, et dans l'autre sens empêche la perte des fluides corporels. Et ces protéines jouent un rôle très très important aussi dans cette fonction. Donc c'est pour cette raison que nous nous y intéressons. Et évidemment, mieux comprendre leur rôle dans le follicule pileux, dans le cheveu, ça nous permet aussi de mieux comprendre leur rôle et leurs interactions dans l'épiderme.
Michel Simon, c'était compliqué de trouver, d'identifier ces mécanismes du cheveu incoiffable. Il y avait plusieurs équipes qui étaient sur le coup là ou pas?
Alors oui, c'est une collaboration multicentrique qui a réuni en fait des généticiens, des dermatologues et des biologistes de au moins 6 ou 7 pays européens.
Ah oui, quand même.
Qui ont soit apporté leurs connaissances en génétique, soit apporté parce qu'ils voyaient des patients eux-mêmes dans leur service de dermatologie. Et c'est vraiment un travail collaboratif qui a permis de réaliser cette découverte.
Est-ce qu'il serait indispensable de proposer un traitement, un shampoing ou quelque chose, ou c'est pas nécessaire actuellement?
Alors pour l'instant, c'est pas nécessaire, je pense, de proposer un traitement, d'autant plus qu'on n'a pas de traitement à l'heure actuelle. Mais c'est vrai qu'éventuellement, l'identification des mécanismes à l'origine de ce défaut du cheveu pourrait, dans un avenir plus ou moins proche, permettre d'identifier des molécules qui pourraient agir sur ces protéines et donc résorber en partie le phénotype.
Mais c'est considéré comme étant une maladie?
C'est considéré comme étant une maladie, et une maladie génétique, oui, tout à fait. C'est pas uniquement un trouble léger du cheveu. Bon, j'imagine que les enfants qui ont des cheveux comme ça sur la tête ont probablement aussi des moqueries qui leur viennent de leurs camarades à l'école, qui doivent pas être toujours faciles à vivre.
Mais vous l'avez dit, pourquoi ce trouble disparaît quand on vieillit, et pourquoi il touche simplement les enfants?
Alors c'est une bonne question. Pour l'instant, on n'a pas vraiment la réponse. Le cheveu, il change de morphologie, il change de diamètre. Par exemple, quand on regarde un cheveu chez un jeune enfant, on voit très bien que le diamètre est plus fin que chez le cheveu d'un adulte. Donc on peut penser que ces modifications du cheveu au cours de l'adolescence vont permettre de résorber ce phénotype. On peut aussi imaginer des compensations avec l'expression d'autres protéines qui vont remplacer ces protéines qui sont anormales dans le cheveu, qui font que peut-être chez l'adulte, on ne retrouve plus ce phénotype, cette mauvaise formation de la tige pilaire du cheveu lui-même.
Michel Simon, merci beaucoup. En tout cas, dorénavant, vous serez donc l'homme qui a percé les secrets du cheveu incoiffable. Et ça, quand même, dans une carrière de scientifique, c'est important. Merci beaucoup. Et on salue toutes les équipes qui ont travaillé avec vous. Vous étiez en ligne avec nous depuis Toulouse, depuis votre unité INSERM. Merci, Michel Simon.
Merci beaucoup.
Bonne journée.
Au revoir. Au revoir.
Axel, on se dit à demain.
À demain, Mathieu.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, dormir après manger, eh bien, tout dépend de ce que l'on a mangé, justement. Une équipe de chercheurs américains s'est intéressée à la fameuse sieste postprandiale, cet assoupissement du corps et ce besoin de dormir qui survient peut-être pour vous en ce moment même après votre repas. Eh bien, en étudiant le phénomène chez la mouche drosophile, les chercheurs montrent que ce qu'ils appellent le coma de satiété est d'autant plus long que le repas est protéiné, mais surtout salé. Si jamais le même phénomène existe chez l'homme, ce qui n'est pas encore démontré, bien voici une raison de plus, en tout cas, de diminuer les doses de sel dans vos assiettes. Les fourmis pratiquent l'agriculture depuis plus longtemps que les hommes. On savait déjà que certaines fourmis étaient capables de cultiver des champs de champignons pour nourrir leurs colonies, mais des chercheurs allemands démontrent maintenant que ces insectes cultivent aussi des plantes. Une espèce de fourmi baptisée Philidris nagaso, découverte sur les îles Fidji, recueille des graines, les dépose dans des petites fissures qu'elle trouve dans les arbres, et les jeunes pousses qui germent forment alors des sortes de chambres creuses, des abris constamment visités par les fourmis qui défèquent dedans également pour fertiliser la plante et l'aider à pousser. Une symbiose donc entre plante et animal qui existe depuis 3 millions d'années, soit 2 800 000 ans avant l'apparition de l'homme moderne et donc de ses pratiques agricoles. Et puis la NASA est prête à vous offrir 30 000 $ si vous trouvez une solution à son problème de space poop, en français de caca dans l'espace. L'agence spatiale américaine lance en effet un concours très sérieux dans le but de trouver une solution pour que les astronautes urinent ou défèquent pendant les missions spatiales. Pour l'instant, la solution consiste à les équiper simplement de couches. Le système, pour être accepté, doit être intégré à la combinaison collectée, urine, matière fécale et perte menstruelle, et pouvoir fonctionner justement pendant 144 heures, soit 6 jours. Vous avez jusqu'au 21 décembre pour proposer vos idées sur le site ErrorX en lien sur la page Facebook de l'émission.